table ronde, les graines d'un monde nouveau. Fabien Moine, éditeur, auteur, réalisateur, praticien de santé, naturopathe, hygiéniste, conférencier. Et on pourrait continuer. Vous avez sûrement beaucoup d'autres talents. Vous avez évoqué à propos de votre intervention le concept, le parcours d'autonomie. Pouvez-vous raconter l'histoire aux auditeurs de Fréquence Mistral de votre famille qui, sur une génération, a perdu le savoir-faire et le savoir-être?
Eh ben oui, en gros, je suis sur une famille de paysans, d'origine paysanne du côté de mon papa, où mon grand-père, donc paternel, a eu un père adoptif, entre guillemets, qui avait une ferme, une petite ferme, et qui lui a légué lorsque mon grand-père avait 14 ans, donc il est parti très tôt de l'école, et avec son savoir dans les mains. Et donc moi, je me suis inquiété de savoir ce qui s'était passé à l'époque. Je lui dis, par quoi tu as commencé en reprenant une ferme? Ça me paraissait monstrueux. Il dit, la première chose que j'ai faite, c'est couper un tronc d'arbre. Et dans ce tronc d'arbre, j'ai taillé un collier pour les bœufs. J'ai équipé les bœufs, j'ai passé la charrue et j'ai semé. Et là, il y a eu quelque chose d'assez vertigineux pour moi de me dire, mais là, on est revenu au Moyen-Âge, on est revenu à l'Antiquité presque. Alors que moi, j'étais déjà dans la technologie du tracteur, j'étais déjà avec mes jeux vidéo, et au même âge, quasiment. Et lui, il me racontait qu'il était déjà dans le labeur, au sens propre, dans le labour. Et puis ensuite, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai construit un hangar de mes mains. Alors, je n'avais pas de plan, mais j'ai observé ce que les GI ont construit pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai mimé cela, j'ai coupé des grands morceaux de bois, j'ai fait des charpentes différentes. Tout le monde s'est moqué de moi dans le village, mais il tient bon, et j'ai fait le bon choix. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder, depuis qu'il est décédé, le parcours de son fils, qui a gagné en confort de travail, parce que le but d'un paysan, c'était de chercher le rendement pour subvenir aux besoins de sa famille, et s'il y a un excédent, de garder de la monnaie pour faire d'autres choses, mais d'avoir du confort. Alors, c'est-à-dire qu'il n'utilisait plus les bœufs, il n'utilisait plus les colliers à bœufs, mais il avait un tracteur qui avait une cabine, au défaut de mon grand-père, une cabine qui était climatisée. Cette climatisation était accompagnée d'un GPS aussi, d'une technologie qui balisait les champs de tous les côtés. Et puis il recevait sur son téléphone portable, dont son tracteur, les informations du semencier pour lui dire quelle semence non reproductible semer tel jour, à telle quantité. Et sinon, il ne serait pas couvert évidemment par les assurances, et qu'en écoutant son MP3, il pouvait laisser aller son tracteur tout seul, et lui presque être spectateur de son travail. Donc on est passé en une génération d'un savoir-faire où mon grand-père, quand il fallait planter, observait le calendrier lunaire, mettait les mains dans la terre, choisissait ses graines qu'il avait conservées de l'année précédente, 10%, à son fils, qui est pris en otage par un système de profit, avec des semenciers qui sont à l'international, qui n'ont jamais vu son champ, qui n'ont sans doute jamais vu la région, peut-être à peine le pays. Et puis, il y a eu une perte de savoir-faire complet et une perte total, puisqu'il n'a pas pu retransmettre sa ferme, parce qu'évidemment, ce n'est plus un métier qui est désirable. Il ne touchait même pas le SMIC alors qu'il travaillait deux fois la durée du travail minimum, c'est-à-dire 35 heures. Et donc, lui, il avait gardé son essence de vouloir soigner la terre, de vouloir nourrir les gens, mais était juste dégoûté de ne plus être à sa place, d'être un ouvrier agricole, mais à son propre compte, et être en fait dépendant des aides de la PAC, et plus de sa force de travail, puisqu'il était sujet des fluctuations boursières. Et puis j'ai vu aussi mon grand-père, dans ce qu'était votre question, l'autonomie, faire sa maison, faire son jardin, planter ses légumes, avoir un verger, mettre des arbres au bout des champs pour, quand il fait chaud, manger des pommes, manger des brugnons, avoir ses lapins, aller à la chasse aussi, savoir récolter des plantes sauvages, bref, avoir tout un savoir-faire et un savoir-être, c'est-à-dire je suis le gardien de la famille, je dois assurer la subsistance et aussi la protection avec une bonne maison, et faire les bons choix. Et puis de l'autre, d'avoir des protocoles, des normes qui assujettissent mon oncle, qui l'assujettissaient, parce qu'il était très content de partir en retraite, quand bien même il aimait au départ son travail, puisque ça a été un choix de reprendre la ferme, et qu'il en est parti absolument dégoûté. Et donc on est passé d'une génération d'être autosuffisant, d'être autonome, d'être fier de son savoir-faire, d'avoir la fierté de nourrir les autres, à une génération qui est dégoûtée, qui est abîmée alors qu'elle a été dans le confort, et désabusée au point de ne plus rien retransmettre parce que ses enfants n'ont pas vu la joie, tout simplement. Et c'est la joie, ça reste le meilleur vecteur de transmission. Et puis derrière, de voir s'évanouir ça dans des immenses fermes, uniquement avec des ouvriers qui sont presque au rythme de la machine et qui n'ont plus de savoir-faire et qui ont perdu le savoir-être simplement en se disant « oui, je vais avoir des ouvrières d'ouvriers et puis je serai payé plus le week-end et puis les entretiens machines sur lesquels je vais avoir d'immenses prêts eh bien, je vais les faire réaliser par d'autres. Ça va me coûter très cher de l'heure, mais moi, ça va m'ôter du savoir. Moi, j'ai toujours vu mon oncle et mon grand-père souder, réparer les moteurs, voilà, changer les pneus eux-mêmes. Et maintenant, c'est non seulement plus possible sur les machines, mais ça n'a plus été transmis, donc c'est plus faisable. Et donc, à travers une seule génération, c'est pas grand-chose. J'ai vu ce qu'on a perdu. Je me dis que mon grand-père, il aurait pu discuter avec un paysan du Moyen-Âge. Il aurait pu avoir beaucoup de choses en commun. Et aujourd'hui, un jeune paysan, il n'a plus rien en commun. Et il aurait pu travailler avec lui de Concorde. Et donc là, cette perte-là de savoir, je me dis qu'il va falloir sans doute plusieurs générations, sans doute successives à l'effondrement du système mécanique, pour pouvoir le retrouver, puis simplement retrouver aussi un lien au vivant et à la Terre.
Ce monsieur qui était soudeur.
Oui. Alors il y a l'exemple d'un soudeur que j'avais rencontré, c'est-à-dire que lui, il est sorti du cursus scolaire classique très tôt, à 13-14 ans, hein, dans les années 60. Il n'était pas très bon à l'école, peut-être c'est pas son truc, peut-être qu'il n'a pas le temps de bosser chez lui. En tout cas, on l'a mis sur une voie où il ne voulait pas aller, c'est-à-dire soudeur. Et il y avait besoin de soudeurs à l'époque, donc on en formait beaucoup. Donc les conseillers, conseillères d'orientation, on orientait parce qu'il y avait un besoin de, on va dire, pour le capital d'aller à cet endroit-là. Et donc c'était un prolo sous-payé. Et puis, avec le temps, avec les dizaines d'années, lui, surtout ses collègues ont été remplacés par les machines qui ont fait des points de soudure très précis, très bien. Mais lui, il est resté dans le circuit, d'une boîte à une autre. Et puis en fait, petit à petit, les patrons se sont rendus compte que la machine ne pouvait pas tout. Et que lui, avec toute son expérience de terrain, il était plus expert et plus capable que la machine. Et donc, il est passé de ouvrier peu compétent, prolétaire, maltraité et mal payé, à devenir un expert, quelqu'un qu'on appelait dans les cas difficiles, où même la machine, qui avait coûté des centaines de milliers d'euros, ne pouvait pas parvenir. Donc, il était devenu un maîtrisant, un artisan, extrêmement bien payé. Et ça, pareil, en même pas une génération, parce que c'est dans sa propre carrière. Et ça nous montre le mirage que peut représenter la technologie, la mise en concurrence aussi de la technologie par rapport à l'humain, et aussi la dépréciation que peut avoir un humain par rapport à son travail. Lui, il n'a pas lâché. Sans doute peut-être qu'il n'avait pas confiance en lui pour faire autre chose, mais en tout cas, le fait de continuer de faire son travail très correctement, très proprement, avec quand même une forme d'amour pour respecter l'autre et la notion travail, a fait qu'à la fin, dans la même société, dans le même pays, dans la même société, la société d'un point de vue macrocosmique, hein, pas l'entreprise, eh bien, il est passé d'un ouvrier peu qualifié à un grand expert maîtrisant.
Vous êtes éditeur aussi.
Également, oui, je suis éditeur depuis 5 ans. J'ai donc ma maison d'édition, Exuvie, c'est une maison d'édition indépendante. J'essaye de travailler de manière artisanale, c'est-à-dire sur des circuits courts. Notre imprimeur est à moins d'une heure et demie. On imprime sur du papier issu de forêts éco-gérées, encre végétale, uniquement en France. On respecte aussi nos auteurs. On les paye tous de manière entre guillemets démocratique. C'est que chaque auteur, même le moins connu par rapport au plus connu, possède les mêmes droits d'auteur des premiers livres, c'est-à-dire à 11%. Ce qui peut paraître peu pour les auditeurs, mais ce qui est beaucoup dans l'édition, on est plutôt entre 5 et 8%. Donc on essaye d'avoir ce standard-là. Et puis on a deux collections, une collection sur la santé intégrative, donc c'est à la fois les approches allopathiques, les approches complémentaires, et aussi une collection société pour essayer de décrypter d'un point de vue anthropologique, sociologique, philosophique, le vivant qui nous entoure. La collection société, c'est pourquoi, et la collection santé, c'est comment. Et on essaye d'intégrer différents événements, différents lectorats, pour participer à créer un autre raisonnement, puis surtout une autre manière de faire, y compris et surtout dans le système de santé où on sent qu'il y a de moins en moins d'humanité et où de la technique a supplanté l'humain.
Vous évoquiez le travail des gens qui travaillaient dans le domaine hospitalier.
Oui, bien sûr, parce qu'on doit avoir une grande compassion pour les soignants. Eux, ils en ont pour nous quand ils le peuvent. Mais là, on se rend compte qu'il y a eu 120 000 lits de supprimés, alors qu'il y a une hausse sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a vu disparaître 120 000 lits. Et donc, du coup, il y a une tension dans les soignants entre la capacité à faire et ce qui doit être fait. On voit un engorgement dans les urgences, on voit des décès dans les urgences qu'on ne voyait absolument pas, les prises en charge de 10, 15, 20, 30 heures, ce qui est absolument inédit et ce qui est aujourd'hui banalisé. On voit aussi la difficulté à trouver un médecin généraliste, on voit la difficulté à trouver un praticien, on voit de la difficulté à simplement se faire rembourser des soins par la sécurité sociale. Et en fait, il y a une tension dans le milieu de la santé et ça me semble fondamental de s'y intéresser parce que quand on a perdu cette santé-là, ce qui nous anime au niveau de notre cœur, de notre esprit, on ne peut pas l'incarner de manière très concrète. Et donc le but pour moi, c'est de remettre du sens et de l'humanité et du savoir-être dans cette médecine où le soignant, il est obligé de raisonner comme une machine, de se couper de ses émotions et de se déshumaniser s'il veut continuer à soigner dans les temps, à laver les chambres dans l'étang, à aseptiser correctement le bloc opératoire, à opérer correctement, à ne plus voir l'humain que comme une consultation. On se rend compte que c'est ça au final. Maintenant, on va aller sur Doctolib, on va regarder le premier médecin disponible, et ça sera une consultation, ça ne sera pas un soin. Et ça sera un peu du one shot, pour parler à l'américaine, et on en arrive à un paroxysme. C'est des salles de téléconsultation qu'on va trouver dans des Monoprix, dans des Leclerc, ça existe déjà. Et donc, pour pallier au manque de médecins, on va rentrer dans une cabine, la tension va être prise, le pouls va être pris, la température va être prise, d'autres variables, le poids également. Et puis, on appuie sur un bouton, on met notre carte vitale. Il y a un médecin qu'on ne connaît pas, qui est à l'autre bout de l'écran et qui, en 15 minutes, va nous dire quoi prendre. Il y a une ordonnance qui sort. On va dans la galerie marchande, on va retirer nos pilules, mais est-ce que ça va nous soigner? Alors, des fois oui, si c'est absolument banal, mais la plupart du temps, ça ne sera absolument pas individualisé, puis ça va être difficile d'avoir de l'empathie avec quelqu'un qui est à l'autre bout de l'écran, qu'on ne reverra jamais de sa vie, et puis dont on sait qu'il va repartir dans la nature et dont on n'aura pas de suivi. Et bien cette médecine-là, c'est une médecine algorithmique qui est en train de se répandre parce qu'il y a un problème, mais déclenché dans le système de soins. Et de mon point de vue, c'est uniquement en basant la réflexion sur une santé humaniste, populaire, qu'on va en sortir, et en sortant du cadre de la compétitivité et du rendement à l'acte. Et là, c'est aux citoyens aussi de se mobiliser. Bien sûr, les soignants doivent se révolter. On se rappelle des manifestations de janvier 2020 où il y a eu des infirmières qui ont été frappées par des CRS, traînées par les cheveux dans la rue, dans les rues de Paris. Mais on se rappelle aussi que nous avons une possibilité en tant que citoyens d'agir, d'aller dans les rues et de défendre nos droits à être soignés, de défendre les droits des soignants à soigner dignement et correctement. Et ça, c'est aussi une partie du travail de fond que j'essaye de faire individuellement, mais également en tant qu'éditeur.
Donc pour vous, Fabien Moine, c'est quoi prendre sa place?
Alors prendre sa place, pour moi, c'est sentir déjà qui on est à l'intérieur. C'est déjà, plutôt que d'avoir un mouvement extérieur, de dire « je vais m'agréger à un groupe ou à une structure », c'est déjà, je vais prendre le temps de m'écouter, de me ressentir, parce qu'il y a le bruit du monde qui me parasite. Il y a toutes les injonctions, je parlais de l'école tout à l'heure, peut-être que l'école me dit c'est mieux de travailler dans le tertiaire, et que peut-être les travaux manuels, c'est pas terrible. Mais peut-être qu'au moins, j'ai cette fibre d'être pépiniériste, d'être avec les plantes, et d'avoir la joie d'embellir les lieux publics, les lieux des particuliers, que j'ai vraiment ce rapport intime-là aux plantes, à la terre, qui me fait vibrer. Et donc, je ne vais pas écouter, je vais m'écouter moi. Même si on me dit que c'est bouché, je vais tellement avoir de passion que je sais que j'aurai des endroits où je vais pouvoir exprimer mon savoir-faire parce que je vais y mettre toute ma substance. Donc déjà, c'est de s'écouter. Ensuite, c'est de s'agréger et de s'entourer de personnes de belle qualité pour m'encourager, pour aussi me conseiller justement. Pas me dire « ça va être difficile, c'est compliqué ». Je pense qu'au niveau légal, ça va être complexe. Non, je vais me faire conseiller justement en disant « oui, peut-être que ça va être peut-être simple, mais il y a des solutions. Et on va t'aider. On va t'aider techniquement, on va peut-être même t'aider financièrement, et on va t'aider moralement. » Et je pense que prendre sa place, ça participe de ça, de déjà d'aller en soi, d'aller dans le silence, dans l'écoute, dans l'introspection, de regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ensuite de s'entourer d'une équipe et d'aller dans un mouvement dynamique vers le monde. Et puis forcément, il y aura un espace d'expression. Je pense que les Foisonnantes incarnent très bien ça, c'est créer des espaces d'expression, créer des espaces de dialogue, créer des espaces de rencontre. Et prendre sa place, pour moi, c'est ni plus ni moins que de se mettre dans le mouvement intérieur et dans un second temps dans le mouvement extérieur. Et souvent, la solution telle qu'elle est vendue par la société, c'est toujours à l'extérieur. C'est à l'extérieur qu'on va trouver. Et moi, je pense que c'est dans le silence et dans une forme d'introspection et d'écoute qui peut être douloureuse parce qu'on va se confronter aussi à notre propre jugement, à notre propre peur aussi, mais c'est de savoir grandir avec, travailler sur soi, les dépasser pour aller proposer au monde ce qu'on a plus de beau.
De se reconnecter éventuellement aussi à la nature.
Oui, la nature, c'est une base fondamentale. C'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple du pépiniériste, c'est que c'est un lieu de ressources. On est bombardé de technologies, on est bombardé d'informations, on est bombardé de bruit, de parasitage, on l'entend autour de nous. Et en fait, c'est très dur de trouver des îlots de connexion. Quand on se rend compte aux gens en leur disant « Où est-ce que tu es bien ? Dans quels instants tu es bien ?» Systématiquement, il y a la nature ou les animaux. Moi, c'est quand je suis avec mon cheval. Moi, c'est quand je suis avec mon chien ou mon chat. Moi, c'est quand je vais marcher le long de la rivière. Moi, c'est quand je vais au sommet de la colline. Moi, c'est quand je vais me baigner dans la mer. Moi, c'est quand je vais m'assoupir le long de la rivière. Et en fait, c'est d'aller vers des expériences fondamentales, essentielles au sens propre du terme, c'est-à-dire quand il y a rupture de lien avec nous-mêmes, ça va être toujours la nature qui va nous permettre de recréer la soudure. et puis de nous faire vibrer, de nous faire ressentir, de nous faire sourire, de nous faire pleurer parfois, bref, de nous faire vivre des émotions que la société parfois intime de ne pas avoir, parce que c'est vu comme une faiblesse, comme une bizarrerie, voire comme une folie. Et donc l'intimité à la nature, elle est co-substantielle au fait de pouvoir trouver sa place. On ne peut pas trouver sa place si on n'est déjà pas dans une forme d'harmonie avec la nature. J'aimerais rajouter un grand merci aux Foisonnantes de donner cet espace d'expression. C'est la deuxième année consécutive que je viens. À chaque fois, je vois beaucoup de bienveillance, je vois beaucoup de mixité, je vois beaucoup de diversité, beaucoup de partage. Moi, j'apprends beaucoup, j'en sors grandi. Et donc, c'est des événements qui sont pour moi exemplaires. J'ai l'habitude de faire beaucoup de conférences en France. J'en parle systématiquement. Et donc, de dire aux habitants de cette région qu'ils ont la chance d'avoir des projets, parce que j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de projets dans le 04, mais dans les départements environnants, et que ça, c'est pas rien, et que rapprochez-vous de groupes, de collectifs, d'associations qui peuvent œuvrer dans ce sens-là. Et forcément, vous allez trouver des endroits où vous allez pouvoir amener vos enfants, même les anciens, recréer du lien social. Et je pense que c'est ça qui nous fait nous sentir humains plus que tout.